C'est bon là, on m'entend? Ouais. Donc je vais vous présenter dans le cadre de cet exposé quelques-uns des résultats d'une recherche que je mène au Mexique depuis 2008 dans le cadre de ma thèse en géographie, qui est une thèse sur la question du tourisme et plus précisément sur des conflits sociaux locaux liés à l'appropriation de l'espace dans les lieux touristiques. C'est un questionnement qui part d'un constat que j'ai pu faire lors de mes premiers séjours au Mexique, qui était celui de la multiplication finalement des situations de conflits dans les lieux touristiques, et des conflits qui étaient directement liés à la maîtrise de l'espace, et d'espace faisant l'objet d'une valorisation économique et symbolique par le biais du tourisme. Il peut s'agir de conflits soit engendrés directement par le développement du tourisme, ou alors de tensions plus anciennes, réactivées dans un contexte de développement touristique. En étudiant ces situations, l'idée, c'était un petit peu d'interroger, dans une perspective de géographie sociale, les conséquences sociales, économiques et politiques, certaines de ces conséquences, donc des conséquences donc sociales, économiques et politiques, de processus de valorisation de l'espace, pour essayer de saisir un petit peu la dimension spatiale du phénomène touristique, dans une approche qui souhaite prendre en compte la question des inégalités sociales et des rapports de forces sociaux et politiques. Ma démarche est comparative. J'essaie de mettre en perspective les terrains d'études. J'ai trois cas en tout, dont celui que je vais vous présenter aujourd'hui, donc Playa del Carmen, qui est une ville touristique du sud-est du Mexique, située dans la péninsule du Yucatán, dans une région que vous connaissez peut-être, qui est la Riviera Maya. C'est la principale région touristique mexicaine. Et donc, c'est la principale ville touristique de cette région, qui a connu un développement touristique très rapide à partir de la fin des années 80. Qui a été à l'origine de transformations très profondes sur le plan économique, social, spatial aussi donc, et politique, et qui a été marqué par des conflits intenses pour la maîtrise de l'espace, des conflits que reflète l'organisation de l'espace urbain aujourd'hui. Cette intervention va être structurée en deux temps. Dans la première, je vais essayer de retracer le processus, finalement, de comment le tourisme a émergé dans cette région, comment les conflits sont survenus, présenter un petit peu les acteurs, les antagonismes, voir un petit peu la dynamique du conflit. Donc c'est une partie assez factuelle de l'exposé, finalement, qui va être la plus longue, basée sur des recherches empiriques menées dans le cadre de la thèse. Et puis dans un deuxième temps, essayer de vous proposer des éléments de généralisation un petit peu, d'interprétation de ces conflits à un niveau plus théorique, pour essayer et c'est des éléments d'interprétation qui ne sont pas formulés uniquement à partir du cas de Playa del Carmen, mais d'un travail comparatif à partir des deux autres terrains d'études sur lesquels je travaille. Donc Playa del Carmen, on se situe dans un état, donc, puisque le Mexique est une fédération d'États, donc 32 États, si on compte le district fédéral qui est la ville de Mexico. Donc l'État du Quintana Roo, qui correspond à la partie sud-est finalement de la péninsule du Yucatán sur sa côte caraïbe. Voilà. Historiquement, on se situe dans un espace de marge à l'échelle du Mexique, un espace très peu peuplé jusqu'au milieu des années 70. Pour des raisons historiques, donc au cours du 19e siècle, durant toute la seconde moitié du 19e siècle, c'est une région, le Quintana Roo, qui échappe au pouvoir étatique parce qu'il y a une guerre entre les populations mayas insurgées et le gouvernement mexicain, qu'on appelle la guerre des castes. Donc, pendant près de 50 ans, 1847-1901, cette guerre fait que l'État a très peu finalement de pouvoir finalement dans cette région. 1901, une date importante, donc la victoire de... Donc voilà, j'essaie de présenter quelques repères historiques un petit peu pour présenter le processus. 1901, victoire militaire de l'armée officielle, de l'armée mexicaine, sur les rebelles mayas, et création d'un statut, l'État n'existe pas encore à ce moment-là, l'État fédéré du Quintana Roo, d'un statut qui est celui de territoire fédéral du Quintana Roo. C'est-à-dire qu'on est dans un territoire qui va rester sous la tutelle directe du gouvernement central pendant la majeure partie du XXe siècle jusqu'à 1974. Avec, sur le plan foncier, un nombre important de propriétés foncières qu'on appelle les terrenos nacionales, les terrains de la nation. Donc sur le plan foncier, une forte emprise du pouvoir central, du gouvernement fédéral. 1974, donc une date charnière pour la région, puisque c'est à la fois le début d'une politique de planification touristique avec la création du centre touristique de Cancun, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, mais pas seulement, ça dépasse largement le cadre de la région de la péninsule du Yucatán, c'est vraiment une politique menée à l'échelle nationale, et dont Cancun est le premier avatar, en fait, puisqu'il s'agit aussi de diversifier l'économie mexicaine, qui à cette époque est encore largement dépendante de la rente pétrolière, à travers donc le tourisme, et puis des enjeux géopolitiques, puisqu'on est tout près de la frontière sud avec le Guatemala et le Belize, et que l'isthme centra-américain est à cette époque marqué par un climat de violence, de guerre civile, et qu'il faut renforcer le contrôle de la frontière sud. Donc toujours est-il qu'à partir de 1974, on a une année charnière avec une politique de planification touristique. L'État va développer donc à Cancun des infrastructures importantes, un aéroport international, une route littorale qui va entre Cancun au nord et Chetumal, la capitale au sud donc de l'État. Et puis aussi un effort de la part du gouvernement fédéral pour promouvoir la nouvelle destination touristique à l'échelle internationale. Donc 74. La même année, 74, le Quintana Roo reçoit le statut d'État fédéré. Donc il cesse d'être le territoire fédéral du Quintana Roo pour devenir l'État fédéré du Quintana Roo et être doté de son propre gouvernement, donc d'un gouverneur, etc. C'est un changement de statut politique qui s'accompagne d'une dotation foncière. Ça, c'est très important puisque les terrains nationaux dont je vous ai parlé, finalement, une partie de ces terrains vont être transférés. Ça va rester du foncier public, mais ça va être transféré à l'échelle du pouvoir local, du gouvernement du Quintana Roo, pour que les autorités locales puissent gérer finalement le processus d'urbanisation, répondre aux besoins engendrés par l'urbanisation. Si maintenant on fait un zoom un petit peu sur Playa del Carmen. La première fois qu'apparaît le nom de Playa del Carmen, c'est en 1902. Donc un an après la fin de la guerre des castes, qui sont les premiers habitants de Playa del Carmen? Ce sont des populations mayas qui remontent du sud de la péninsule du Yucatan, du Quintana Roo justement, pour fuir les violences liées à la guerre des castes et qui vont s'établir à Playa del Carmen. Il s'agit d'une cinquantaine de familles à peu près pour y pratiquer la pêche et l'agriculture. Essentiellement, il y a une économie agricole qui est axée sur la production de la résine de chicle localement. C'est la résine avec laquelle on fait le caoutchouc et le chewing-gum notamment. Donc, et puis l'huile de palme aussi, qui est une production locale importante. Autre élément important, donc 1910, quelques années plus tard, la révolution mexicaine à l'échelle nationale, un des principaux acquis de la révolution mexicaine, c'est la réforme agraire. Et donc, à partir des années 20 jusqu'à 1992, donc jusqu'à la dernière décennie du XXe siècle, l'État mexicain entreprend de redistribuer la terre aux populations rurales, aux populations paysannes. Et ça fait pas exception dans la région du Quintana Roo. Et il y a donc dans le cadre de la réforme agraire, la communauté maya de Playa del Carmen va recevoir une superficie de 22 000 hectares. Donc, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, le cadre juridique, la redistribution de la terre dans le cadre de la réforme agraire ne se fait pas sous le régime de la propriété privée. L'État mexicain met en place différents régimes fonciers. En ce qui concerne le cas local, c'est l'ejido, qui est un système de propriété collective du sol, où la propriété du sol reste publique, mais il y a un droit d'usage inaliénable qui est transmis à une communauté agraire, finalement, qui fonctionne en assemblée, avec une assemblée agraire, et qui est dotée de ses instances locales de gouvernement, qui est le commissariat ejidal. Donc un usufruit, un droit d'usage inaliénable qui peut se transmettre de génération en génération au sein de la communauté agraire. Donc localement, à Playa del Carmen, 22 000 hectares, une dotation foncière de 22 000 hectares pour au total 54 ejidatarios. Les ejidatarios, ce sont les personnes qui reçoivent un titre agraire et qui donc sont reconnus comme membres de la communauté agraire. En l'occurrence, c'est plutôt en général les hommes et les chefs de famille. Donc, voilà pour le contexte foncier, j'insiste dessus parce que c'est vraiment un aspect important du développement urbain. Autre chose importante, c'est que les terres ejidales ne peuvent faire en aucun cas l'objet d'une commercialisation. Elles ne peuvent pas être introduites au marché privé. Elles sont protégées par l'article 27 de la Constitution mexicaine jusqu'en 1992 où l'État mexicain a réformé cet article à la veille finalement de la signature de l'accord de l'ALENA, de l'accord de libre-échange. La réforme du statut des terres ejidales était un préalable à l'intégration du Mexique dans l'ALENA. Donc à partir de 1992, il existe des dispositifs juridiques qui permettent de réintroduire ces terres au marché privé. 1974, donc j'ai parlé du développement du centre touristique de Cancun, à peu près une heure de distance par la route de Playa del Carmen. Et donc ça va être un vecteur de... ça va jouer un rôle moteur dans l'émergence d'un tourisme local à partir des années 70. C'est pas un tourisme de masse, c'est plutôt souvent des hippies qui fuient un petit peu le tourisme de masse du centre touristique de Cancun. Le début du boom touristique à Playa del Carmen, c'est la fin des années 70, 79, 84 à peu près, cette fourchette où on a les premiers investissements importants à Playa del Carmen. Donc c'est un moment qui est marquant puisque c'est le début d'un flux de touristes, de capitaux, de population aussi, puisqu'il faut recruter beaucoup d'ouvriers du bâtiment pour construire le projet. Et donc les sous-traitants qui travaillent dans le cadre de ce projet vont directement aller dans les états ruraux proches, le Chiapas et le Tabasco notamment, pour recruter des ouvriers du bâtiment. Donc à cette époque-là, finalement, au milieu des années 80, on a le début d'une croissance urbaine. Pour vous donner un chiffre, en 1987, On a 1500 habitants. En 88, l'année suivante, il y en a 4500 déjà. Donc, il y a les premiers besoins de logement qui commencent à apparaître. Les témoignages de cette époque racontent finalement qu'on voit à la nuit tomber des campements de fortune s'installer à la périphérie du chantier, etc. Et en 88, les autorités locales vont pour la première fois distribuer une parcelle à urbaniser pour des raisons de besoin de logement. La même année, les habitants commencent aussi à se mobiliser autour de la question du logement. Et il y a une organisation sociale qui s'appelle la Union de Colonos, l'Union des Colonos, donc qui sert un petit peu d'interface entre les habitants et le gouvernement local pour tout ce qui est discussion autour des questions de logement. Au début des années 90, le phénomène d'urbanisation s'accélère et les pouvoirs publics s'impliquent davantage dans le processus. 1993, l'élection donc de Mario Villanueva au poste de gouverneur du Quintana Roo. Et donc c'est un personnage hautement controversé au Mexique, Mario Villanueva, puisque c'est sûrement le plus haut fonctionnaire d'État, donc un gouverneur, c'est le seul à avoir été mis en prison pour narcotrafic et blanchiment d'argent. Il a été extradé aux États-Unis, il a été condamné à 28 ans de prison. Il est sorti récemment et d'ailleurs c'est significatif que ça arrive peu après l'élection d'Enrique Peña Nieto au gouvernement, à la présidence du Mexique. Donc Villanueva est élu gouverneur en 93, il était maire de Cancun jusque-là, et il va prendre en main ce développement, notamment en mettant en vente le foncier public à travers la création d'un fonds, le Fideicaribe, qui est un fonds public donc chargé de commercialiser le foncier public à vocation touristique, sachant qu'il y a un autre organisme public qui gère le foncier à vocation résidentielle. Quand je dis mise en vente, c'est qu'il y a un vrai dumping qui est pratiqué sur les prix du foncier. Si on regarde les transactions qui sont faites à cette époque-là, c'est autour de 2 à 5 dollars le mètre carré, ce qui est vraiment dérisoire. Et justement, l'idée, c'est de créer une différence, un avantage comparatif par rapport à Cancun, qui commence à être saturé au niveau foncier avec une pression foncière très forte, et donc d'attirer des capitaux. Et puis l'autre manière de stimuler ce développement touristique, c'est une politique de marketing territorial avec 1997, donc création de la marque Riviera Maya, et d'un organisme public chargé d'assurer sa promotion à l'étranger, au Mexique et à l'étranger. Donc quand je parle d'une accélération de la croissance urbaine, ici sur ces photographies, on peut se faire une idée un petit peu du rythme auquel ça avance. 1979, il n'y a encore pratiquement rien. On passe de 1500 habitants en 87 à 17 000 en 95 et à plus de 150 000 lors du recensement de 2010. Donc une population multipliée par 100 en même pas 25 ans. C'est la ville qui va connaître la croissance urbaine la plus rapide au niveau national et selon certains géographes qui ont travaillé à une échelle plus régionale, l'une des villes qui a grossi le plus rapidement de toute l'Amérique latine au cours de ces dernières années. Voilà. Après 92, la loi, les nouveaux cadres juridiques permettent de commercialiser les terres ejidales, mais à ce moment-là, les ejidatarios sont très réticents à vendre puisqu'ils sont dans une stratégie spéculative. Ils se disent on va attendre que ce soit complètement saturé dans la partie littorale pour commencer à vendre, sinon c'est pas intéressant. Donc à ce moment-là, aucune possibilité d'urbanisation dans l'Équidor, ou alors de manière illégale, mais pas légalement. Donc on a un développement urbain sur lequel pèsent des très fortes contraintes foncières, puisqu'on a au sud Playa Car qui empêche la ville de croître vers le sud. Donc à l'est, on a la mer des Caraïbes, à l'ouest, au nord-ouest, on a l'Équidor. Donc la seule orientation possible pour le développement urbain, c'est vers le nord, vers le nord-est, donc vers Cancun, parallèlement à la côte. Mais à ce moment-là, le développement urbain va se heurter à un litige sur une parcelle, qui est une parcelle de 274 hectares, une parcelle importante, située immédiatement à proximité du centre-ville, et ce qui est un terrain qui appartenait à la nation donc jusqu'en 1974, qui faisait partie de ces terrains nationaux, et qui, en 1974, est transféré aux autorités locales. Mais au même moment, bien un propriétaire privé, un propriétaire terrien local, conteste cette propriété au pouvoir public, et prétend en avoir fait l'achat à l'administration fédérale dans les années 80. Alors, en gros, l'explication, c'est qu'il y aurait eu une erreur d'enregistrement, une erreur administrative au moment du changement de statut juridique de la propriété du sol, qui génère une situation de blocage et une sorte de vide juridique qui permet donc cette revendication foncière de la part du propriétaire privé. À ce moment-là, il n'y a pas d'issue juridique au conflit. C'est un litige qui prend des allures de conflit personnel entre le gouverneur Mario Villanueva et le propriétaire terrien, et qui est devant les instances juridiques, devant la Cour suprême mexicaine au début des années 90. À ce moment-là, le problème de saturation du centre-ville devient de plus en plus important. des problèmes de spéculation, des loyers très élevés, une pénurie de logements donc. Et au début des années 90, les premières tensions sociales apparaissent, avec des manifestations qui se multiplient, des blocages de routes, des tentatives d'invasion dans les Ejido, repoussées chaque fois manu militari par les Ejidatarios avec le soutien des forces de l'ordre. Et donc les habitants réunis sous la bannière de l'Union des Colonos dont je vous parlais à l'instant, commencent à envisager la possibilité d'envahir, d'occuper donc physiquement la parcelle en litige. Une délégation du groupe se rend à Mexico pour étudier un petit peu les tenants juridiques du problème, en se rendant dans les divers organismes gouvernementaux concernés, et obtient la quasi-certitude finalement que le propriétaire terrien n'est pas légalement propriétaire de la parcelle qu'il revendique. Des négociations ont lieu avec le gouverneur Mario Villanueva, des négociations permises par la proximité politique entre les leaders de ce mouvement qui sont des membres de la CTM, la Confédération des Travailleurs Mexicains, qui est un des plus gros syndicats mexicains, et qui est organiquement lié au Parti de la Révolution Institutionnelle auquel appartient Mario Villanueva. Ceci dit, le gouverneur ne peut pas à ce moment-là appuyer publiquement une invasion dans la mesure où il est dans l'attente d'une solution juridique au conflit. Ceci dit, il va négocier avec le groupe et autoriser de manière au moins tacite l'invasion qui a lieu. Plusieurs milliers de familles prennent possession donc physiquement de la parcelle en question. Villanueva n'intervient pas, c'est-à-dire que les forces de l'ordre n'interviennent pas. Il met même en place des dispositifs de sécurité pour éviter les risques d'incendie, etc. Donc il y a vraiment un laisser-faire manifeste. Et puis surtout, là où c'est un coup politique extraordinaire, c'est qu'il négocie avec le groupe, il donne le permis tacite, mais il négocie la frange littorale du terrain. Aujourd'hui, ce terrain, c'est la colonia Luis Donaldo Colosio, qui est le plus gros quartier populaire de Playa del Carmen, et qui est donc à la fois donc une démarche d'appropriation physique de l'espace, et puis un travail aussi symbolique de nomination, d'appropriation donc idéale de l'espace, puisque la nomination, donc Luis Donaldo Colosio, c'était le candidat du prix aux élections de 94 et qui a été assassiné quelques semaines avant l'invasion. Et donc pour lui rendre hommage, les colonos ont décidé de lui donner son nom au quartier. Donc, dans le cadre de la campagne, il était venu à Playa del Carmen rencontrer les gens et il avait promis en cas d'élection de s'attaquer au problème, à leurs problèmes. Donc ils ont voulu lui rendre hommage. Et puis la rue qui marque le début finalement de ce quartier, c'est la rue CTM du nom de la Confédération des Travailleurs Mexicains. Donc un quartier qui a une histoire, une charge, disons symbolique très très forte, quoi. Donc 94, invasion. Suite à l'invasion, le gouvernement de l'État de Quintana Roo entreprend de remettre aux colonos des certificats leur reconnaissant la possession des terrains qu'ils occupent. Pas la propriété, la possession. C'est un droit d'usage, en fait. Sachant qu'ils pourront faire l'acquisition de leur terrain en l'achetant à terme, donc au gouvernement local, à un prix plafonné, puisque c'est un prix donc qui est fixé en fonction de l'intérêt, un prix d'intérêt social pour un programme de logement. Et c'est l'INVICRO, qui est l'Institut pour le logement de l'État du Quintana Roo, qui est chargé de mettre en œuvre le processus de régularisation foncière, donc de régulariser la situation foncière dans le quartier, donc la Colosio. Il faut savoir que c'est une forme d'urbanisation qui est très courante en Amérique latine. On parle parfois d'urbanisation informelle ou d'autres auteurs parlent d'urbanisation par invasion. C'est l'une des figures principales de l'urbanisation au Mexique. Ça représente à peu près 40% de la production de logements c'est des chiffres à peu près admis par tous les sociologues et les géographes qui travaillent sur ce sujet. Le problème, c'est que le mandat du gouverneur Mario Villanueva se termine en 1999 sans que le processus de régularisation ne soit arrivé à son terme. Donc il y a une nouvelle donne politique qui s'installe. Mario Villanueva, d'ailleurs, il prend la fuite 2 jours avant la fin de son mandat. Et il est arrêté en 2001, donc avant d'être condamné et extradé. Le processus de régularisation foncière est inachevé. Et l'arrivée du nouveau gouverneur va marquer la fin de l'alliance entre le gouvernement local et les colonos. Là où Villanueva avait été plutôt conciliant, c'est-à-dire au détriment du propriétaire terrien, il avait tissé une alliance finalement avec les colonos, et bien le nouveau gouverneur, lui, va choisir de mettre un terme à ce problème juridique en s'alliant avec le propriétaire terrien et en créant une société immobilière mixte qui s'appelle la Desarrolladora de la Riviera Maya. Donc une société immobilière de capital variable qui est propriétaire de l'ensemble de la parcelle, toute la parcelle, la Colosio plus la frange littorale. et dont le principal actionnaire est le gouvernement donc de l'État du Quintana Roo, 51% des actions, tandis que les 49% restants reviennent aux propriétaires terriens qui avaient été donc spoliés lors de l'invasion en 94. Donc nouvelle configuration politique locale. Et c'est désormais donc la Desarrolladora de la Riviera Maya qui est chargée de régulariser la propriété du sol et de commercialiser les lots, donc les parcelles. Et c'est donc à cette société que les habitants devront faire l'achat du lot qu'ils occupent. À ce moment-là, la société procède à une nouvelle évaluation du prix des terrains. Mais ce n'est pas une évaluation qui est fondée sur les prix d'intérêt social, comme cela avait été déterminé au moment de l'invasion, mais sur les prix du marché. Et pas sur les prix du marché en 94, au moment de l'invasion, mais sur les prix du marché à la date de la régularisation. Sachant que c'est des prix qui ont été multipliés par 10 entre-temps, et qui sont toujours pas stabilisés à l'heure où on parle. Donc c'est évidemment des tarifs qui sont inabordables pour la plupart des habitants de la Colosio. Et c'est donc une nouvelle donne qui remet en cause l'ancrage dans l'espace urbain de cette partie de la population. Donc une situation beaucoup moins favorable aux colonos qu'en 94. Par ailleurs, on a un durcissement du cadre légal local, puisqu'en 2008, il y a une réforme du code pénal de l'État du Quintana Roo qui va constituer en délit pénal l'invasion, donc un délit passible de 2 à 9 ans de prison. Donc voilà, l'autre aspect important, c'est que la société immobilière va avoir une stratégie qui vise à diviser un petit peu les colonos, et que ça va être beaucoup plus difficile pour eux de se mobiliser. Pourquoi ? Parce que l'évaluation des parcelles se fait à titre individuel. Et une évaluation au cas par cas avec des critères très très différents. Le premier critère, c'est la fonction du lot, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs usages, plusieurs fonctions qui sont établies, la fonction résidentielle, la fonction commerciale, la fonction touristique. Et que cette fonction dépend de la localisation. C'est-à-dire que si vous êtes plus ou moins proche du littoral, si vous êtes sur au rez-de-chaussée ou à l'étage, si vous êtes sur une voie de communication, etc., ça va déterminer un peu l'usage de la parcelle et en fonction de l'usage, son prix et les modalités d'achat. Et puis l'autre critère important, c'est l'ancienneté de la personne finalement dans le quartier. Soit la personne est reconnue comme colono, c'est-à-dire comme participant à l'invasion en 94, soit il a racheté le droit d'usage, le certificat de possession après. Dans ce cas-là, la personne n'est pas, ne bénéficie pas des mêmes facilités de paiement, etc. Donc on a une diversification des situations et des intérêts dans le quartier qui rend très difficile la mise en place d'un mouvement social large comme c'était le cas en 94. Et puis aussi une diversification des stratégies adoptées, puisque certains groupes d'habitants sont favorables à une procédure juridique pour contester les statuts finalement de la société, en disant on ne reconnaît pas, nous on conteste la légalité même de la société. D'autres vont dire non, il faut plutôt négocier sur les prix ou sur les délais, etc. Donc on voit pas un mouvement large, mais plutôt des petits groupes d'habitants qui se mobilisent dans leur coin, des groupes qui dépassent pas 200, 300 personnes finalement. Et voilà, un petit peu la nouvelle situation. Sans compter que dans le groupe de l'Union des Colonos, il y a aussi des divisions internes importantes liées à des conflits d'intérêts, des malversations de la part de certains leaders, etc. Alors il faut que je vous parle un petit peu du projet Gran Coral, celui qui est situé à l'extrémité nord de la ville. Et c'est vraiment un projet très important. Il s'agit de pratiquement 7000 logements de standing, de résidences secondaires. Une parcelle de 350 hectares, 1,5 km de côte. Donc un projet porté par deux banques espagnoles, que celles que j'ai évoquées. Il faut savoir que la position finalement dominante des acteurs espagnols, des groupes espagnols, tend à se renforcer aujourd'hui. Pour preuve, en 2010, l'ouverture d'une délégation locale de la Chambre de commerce espagnole du Quintana Roo. Donc. 2012, une visite de Mariano Rajoy, qui a rencontré son homologue mexicain. Et dans le but donc, de faciliter l'intégration des petites et moyennes entreprises espagnoles localement. Donc dans le sillage un petit peu des grandes entreprises, on va voir les petites et moyennes entreprises maintenant. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque je réalisais ce travail d'enquête, je voyais bien que dans cette présence espagnole, elle est lisible dans le paysage. On voit tous les grands groupes immobiliers, Riu, Iberostar, NH, Solmelia. On voit vraiment une prédominance. Ils sont même en train de déplacer les groupes américains. Le Hilton de Cancun a été racheté par Iberostar, par exemple. Donc l'impression que j'avais, c'est finalement d'être face à des acteurs avec une santé économique finalement extraordinaire, parce que pour acheter des terrains de 350 hectares à ce prix-là, en même temps, lorsqu'on fait un travail d'enquête, on ne peut pas avoir accès à ces acteurs-là. C'est-à-dire que le siège est à Madrid, on peut pas, de toute façon, même si on posait des questions, on ne pourrait pas avoir les réponses qu'on attend. Donc La démarche que j'ai eue, ça a été de faire des recherches sur ces groupes dans la presse économique espagnole et de me rendre compte que pas du tout, là où je m'étais planté, c'est que c'était pas des acteurs avec une bonne santé économique. Au contraire, ce sont ceux qui ont été le plus touchés par la crise économique en 2008. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que alors qu'ils achètent de plus en plus de terrain au Mexique et dans tout le bassin Caraïbe, ils ont la stratégie inverse, c'est-à-dire que si on regarde la presse économique espagnole, on voit qu'ils se débarrassent de tous leurs actifs en Catalogne, dans les îles Canaries, dans les Baléares, où là, ils mettent en vente toutes leurs propriétés. Donc la stratégie, c'est, comme on a un secteur économique qui est complètement proche du collapse, je dirais, en Espagne, c'est de déterritorialiser la plus-value, voilà, l'exploitation, pour la transférer les fonds vers le bassin Caraïbe, où avec les prix des prix du foncier plus intéressants, une main-d'œuvre moins chère, et puis la proximité aussi des marchés nord-américains. Donc voilà un petit peu ce qui est en train de se passer comme recomposition économique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que Sol Melia, l'entreprise qui est le plus gros groupe hôtelier espagnol, a été sanctionné par l'agence Moody's en 2008. Et les actions donc de Sol Melia ont intégré la catégorie bono basura, c'est-à-dire vraiment des bons qui ne valent plus rien, qui sont voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des formes urbaines, on est face à un nouveau modèle d'urbanisation, puisque on voit sur la carte de Playa del Carmen que la ville est organisée en damier. Toutes les rues débouchent sur la mer, sur le front de mer, et donc on a un accès public à la plage sur toute la ville. Sauf quand on arrive à la Colosio, on voit l'édification de murs comme celui-là. Donc là, c'est une photo prise depuis la Colosio, et c'est le mur d'enceinte de l'hôtel Gran Melia qui doit être fini, dont la construction doit être terminée aujourd'hui. Bon, voilà un petit peu pour ce qui est du processus à Playa del Carmen, du processus urbain. J'en ai plus ou moins terminé, enfin j'en ai terminé avec la partie empirique, je dirais, du travail, avec la partie factuelle, et je vais essayer de présenter quelques-uns des éléments d'interprétation qui sont ceux que je privilégie dans ma thèse pour essayer de comprendre ces conflits. Alors l'idée, c'était de partir des situations de conflit pour, au-delà de ces situations, essayer de voir quel genre, quelles contradictions sociales, finalement, quels antagonismes peuvent s'exprimer à travers ces situations de conflit. D'utiliser donc les moments de conflit comme des révélateurs, des moments révélateurs des antagonismes sociaux. Et la première chose qui m'est apparue importante, c'est que les antagonismes sociaux face auxquels je me trouvais étaient liés à la propriété, aux structures de la propriété foncière, finalement, qu'on ne pouvait pas comprendre les logiques auxquels obéissaient les différents acteurs, si on comprenait pas la place qu'ils occupaient par rapport à la propriété du sol. Que ce soit les ejidatarios qui, eux, donc, ont un rapport particulier à la propriété foncière, les colonos qui, eux, sont plutôt dépourvus donc d'un droit de propriété, le gouvernement de l'État qui, lui, a tout intérêt aussi à spéculer sur le foncier public, etc., etc. Donc c'était finalement que l'axe structurant de ces relations sociales, de ces antagonismes sociaux, c'était la propriété du sol. Donc on était face à des rapports de propriété. Et que ces rapports de propriété prenaient de plus en plus de place dans le fonctionnement de la société locale. C'est-à-dire que ils deviennent prépondérants. Si on veut comprendre la production de la ville, c'est cela qu'il faut étudier parce que ils sont peut-être plus importants que d'autres antagonismes sociaux. Ce n'est pas les seules contradictions sociales qu'il y a. Il y a aussi des conflits liés aux relations de travail. Il y a un mouvement social à Playa del Carmen, enfin peut-être plus aujourd'hui, mais il y a quelques années, sur la question de l'accès au crédit, etc. Mais ceux qui semblent prépondérants, ce sont les contradictions sociales liées à la propriété du sol. Et donc d'où la question que j'ai commencé à me poser, est-ce que c'était finalement moi en tant que géographe, parce que j'ai un regard peut-être géographique sur les sociétés, est-ce que finalement je donnais une importance plus d'importance à ces phénomènes-là, est-ce que j'avais un regard spatialisant finalement sur ces processus, et pour cette raison est-ce que j'étais particulièrement attentif peut-être aux questions foncières, ou est-ce que finalement l'importance de la question foncière était liée à la nature des processus que j'étudiais, auquel cas il fallait expliciter un petit peu cette problématique. C'est aussi en confrontant mes travaux, mes recherches avec d'autres chercheurs qui ne sont pas des géographes, des anthropologues, des politistes, etc., que j'ai pu me rassurer peut-être en voyant que la question foncière, elle n'intéressait pas que les géographes, et que beaucoup de gens qui travaillent sur le tourisme sont face à ces problèmes-là et pas seulement donc dans une perspective géographique. La problématique qui semblait se dessiner, que j'essaie d'esquisser, c'est celle de la valorisation de l'espace. Une valorisation de l'espace à travers le tourisme qui accentue certaines contradictions sociales, pas toutes, mais certaines, et donc celles qui sont contenues dans les rapports à l'espace et dans les rapports juridiques à l'espace. Et donc qui exacerbe un petit peu le rôle structurant des rapports de propriété dans les rapports sociaux. Donc finalement, on retombe sur une grille de lecture matérialiste, hein, une grille de lecture plutôt marxiste même, on pourrait dire. Et c'est surtout chez Henri Lefebvre que j'ai trouvé des éléments de réponse, un petit peu, des éléments d'interprétation de ces antagonismes-là. Alors, comment Lefebvre, donc dans la production de l'espace, analyse, c'est un ouvrage très théorique, il n'y a pas tellement de travaux empiriques à l'appui, hein, ou de manière assez lointaine dans ce livre, mais il arrive à la même conclusion un petit peu sur le plan théorique. Avec une lecture que je vais essayer d'expliciter rapidement, qui est de dire qu'il faut étudier que le système capitaliste doit être analysé selon un schéma à trois termes, et pas un schéma à deux termes, comme beaucoup de marxistes le font, en axant finalement l'analyse sur la contradiction entre le capital et le travail, mais qu'il faut donner toute son importance à un troisième terme, qui selon Henri Lefebvre est la terre et le sol. C'est un troisième terme qu'il n'a pas inventé, qui était déjà présent dans l'œuvre de Marx, notamment dans une partie du troisième livre du Capital, qui est consacré à la théorie de la rente foncière, mais dont l'importance a souvent été minorée dans les travaux d'auteurs marxistes par la suite. Lefebvre identifie d'ailleurs des raisons politiques finalement à cette éviction des questions foncières, dans la mesure où il y avait une volonté politique de cliver autour de la contradiction entre le capital et le travail dans une société industrielle, dans la mesure où l'importance des structures de la propriété foncière, qui était prépondérante dans une société féodale finalement, avec une base économique orientée sur l'agriculture, mais où finalement le sol, la place du sol et de la terre dans le fonctionnement de l'économie perdait de son importance avec l'industrialisation et donc les rapports sociaux, forcément on avait des recompositions du système économique qui se répercutaient sur les hiérarchies sociales et les rapports de classe. Et que donc pour cette raison, eh bien, l'analyse marxiste a souvent évincé la question du sol et la question de la rente foncière et la question des rapports de propriété. Or, donc, si l'économie, l'évolution de l'économie a des incidences sur l'évolution donc de la société, Lefebvre pense que l'urbanisation du monde et notamment le secteur des loisirs, le développement du secteur des loisirs et du tourisme, tend à replacer sur le devant, au premier plan finalement, les contradictions sociales liées à la propriété du sol. Et pour illustrer un petit peu cette idée, il a développé la notion d'espace contradictoire, qui est celle que j'ai. Il a eu une phrase qui dit que l'espace des loisirs est l'espace contradictoire par excellence. C'est-à-dire qu'on a des contradictions sociales qui sont, dans la mesure où elles prennent place dans l'espace, où elles se spatialisent et où elles génèrent de nouvelles contradictions qu'on ne peut pas comprendre si on n'intègre pas cette dimension spatiale et au sens matériel, c'est-à-dire celle du sol et de la terre. Ce phénomène. Il l'associe à l'opposition entre l'abondance et la rareté de l'espace. C'est-à-dire que on est face à des situations où l'espace devient une ressource, où le sol devient une ressource rare. Et cette opposition entre l'abondance et la rareté, il l'articule à l'opposition qu'on trouve dans l'analyse marxiste entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. C'est-à-dire que la raréfaction finalement de l'espace et du sol accentue finalement la valeur d'échange du sol au détriment de la valeur d'usage qu'elle peut concurrencer et même remplacer. C'est aussi une question qu'il relie avec celle de la centralité, la production de la centralité urbaine, avec cette phrase aussi également extraite de la production de l'espace, donc, selon laquelle la pénurie d'espace a un caractère socio-économique bien défini, elle ne s'observe et se manifeste que dans des aires déterminées au voisinage des centres. Cette centralité expulse avec une violence inhérente à l'espace lui-même les éléments périphériques. Et que donc on a donc une contradiction entre abondance et rareté de l'espace, reliée donc articulée à l'opposition entre valeur d'usage, valeur d'échange, et périphérie, centre, finalement. Si on voit ça du point de vue de la production de l'espace. Qui est une opposition qu'il articule ensuite à un quatrième niveau, qui est celui de la position entre appropriation de l'espace et propriété. C'est-à-dire que l'usage suppose appropriation, alors que il n'y a pas d'échange sans propriété. Enfin, pour lui, je suis peut-être pas tout à fait sûr de partager ce quatrième couple conceptuel. Voilà, enfin, de l'articuler comme ça aux trois précédents, quoi. Mais en tout cas, voilà un petit peu le schéma qui est présent chez Lefebvre et qui me semble être la grille de lecture enfin, qui à moi me permet en tout cas d'interpréter, de comprendre un peu ce qui se passe au niveau de cet espace urbain en mutation. Donc voilà, problématique de la valorisation de l'espace. Et puis donc une deuxième idée bon, que je vais moins développer, mais qui est l'autre piste que je privilégie dans le cadre de ce travail de thèse, qui est la dimension plus politique finalement, dans la mesure où ces contradictions qui trouvent leur origine dans la sphère économique s'expriment politiquement, eh bien l'espace devient aussi un support pour l'action. Et on a pu voir dans le processus que je viens de décrire qu'il est utilisé, il est mobilisé par les différents acteurs pour affirmer des rapports de force, pour construire des rapports de force avec les autres acteurs. Et une des méthodes peut-être pour mettre en lumière cette dimension, c'est aussi l'étude des trajectoires d'acteurs politiques, qu'ils soient individuels ou qu'il s'agisse de partis, d'organisations. Si on prend le cas de Mario Villanueva, par exemple, le gouverneur, on voit très bien comment il a construit sa carrière en utilisant des controverses liées à la propriété du sol et en utilisant la maîtrise de l'espace, finalement. C'est quelque chose qui est présent dans le processus que j'ai décrit, mais qui est présent dans tout au long de sa carrière, puisque quand il était maire de Cancun, là où c'est intéressant, c'est que jusqu'en 93, Playa del Carmen n'est pas une municipalité. C'est une localité qui dépend, sur le plan juridique, de la municipalité de Cozumel. Le chef-lieu de la commune est à Cozumel et Playa del Carmen est un peu une périphérie de la municipalité. Et pour aller faire une démarche administrative à la mairie, les habitants de Playa del Carmen doivent prendre le bateau pour aller sur l'île. Il faut une journée aller-retour pour aller faire la moindre démarche, quoi. Et à ce moment-là, avec l'amélioration des réseaux routiers, il devient plus facile d'aller à Cancun que d'aller à Cozumel. Et Villanueva voit de plus en plus souvent des demandes émerger de la part des habitants de Playa del Carmen qui ne sont pas sous sa autorité politique. Et à cette époque, finalement, il y a des velléités de pouvoir qui émergent à Playa del Carmen et une petite coalition locale de propriétaires fonciers, d'entrepreneurs, etc., souhaite à ce moment-là s'indépendantiser par rapport à la municipalité de Cozumel et d'obtenir la création d'une municipalité nouvelle dont le chef-lieu serait à Playa del Carmen. Donc à ce moment-là, Villanueva, il ne peut pas non plus, là encore, assumer publiquement de soutenir une lutte sécessionniste, mais il dit au groupe, finalement, soutenez-moi aux élections de 93, et si je deviens gouverneur, vous aurez votre municipalité. Donc c'est ce qui s'est passé, il a eu un soutien politique très important à Playa del Carmen, il est élu en 93, et 6 mois plus tard, la municipalité est créée parce qu'il a intercédé auprès du président de la République. Donc ce sont des exemples, mais je pourrais les multiplier dans l'exemple de Playa del Carmen ou dans l'exemple d'autres travaux empiriques que j'ai pu mener, et donc c'est l'autre dimension importante que j'ai envie d'explorer, de continuer à explorer dans le cadre de ce travail.